Je m'appelle Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
Moi, d'accord. Moi, c'est André de Mujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à la fréquence de la paix qui vous propose cet échange d'en parole aux auditeurs. Conflit foncier dans la commune de Lancelet. Dans une mise au point rendue publique en début de semaine, le ministère des Affaires foncières précise que les occupants du site Kinmalebo qui sollicitent une indemnisation de la part du gouvernement dans le cadre de l'expropriation pour besoin d'utilité publique n'avaient pas acquis ces parcelles d'une manière légale, ce que contestent ces derniers. Pour décanter la situation, le ministère a, dans une mise au point, annoncé une indemnité forfaitaire aux 700 occupants du site qui doit être mise à la disposition des partenaires du gouvernement congolais dans le cadre des zones économiques spéciales. Que pensez-vous de cette démarche et comment faire pour trouver une solution définitive à cette situation? Vous êtes nombreux à vouloir commenter les sujets. Nous nous retrouvons sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Mimi Kindo assure la mise en onde de ce magazine que Pierrot et la Méningie, le réel plaisir de vous présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à toutes et à tous.
Radio Capi, grand témoin.
Grand témoin reçoit M. David Kamoua Moussoubao, homme politique et entrepreneur de la province du Nord Kivu. Dans cet entretien, il parle de son rêve du Nord Kivu 100% Pessan, qui veut dire une province propre, éclairée, sécurisée, asphaltée et numérisée. Grand témoin avec David Kamoua Moussoubao, c'est à suivre ce dimanche 9 juillet à 9h05, heure de Kinshasa, rediffusion à 20h.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et dans ce studio, nous recevons Maître David Niembwe Tilenye, directeur des cabinets du ministre des Affaires foncières. Maître Niembwe, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Commençons d'abord par les débuts. Comment cette histoire a commencé?
Merci pour la question que vous posez. Au fait, en date du 16 septembre 2022, la République démocratique du Congo a conclu un accord cadre avec la société ARIS, Integrat Industrial Platform, et la société d'investissement et de développement industriel du Congo. Au terme de cet accord, la République s'est engagée à mettre à la disposition de ces sociétés une concession adéquate afin d'y ériger une zone économique spéciale. Dans cette suite, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à travers une de ses correspondances du 13 septembre 2022, a instruit Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires foncières, d'exproprier notamment le site Kinmalebo dans la commune de Lancelet, car ce site s'est avéré être adéquat aux exigences de la zone économique spéciale. En exécution de cette instruction, Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires foncières a donc, par arrêté ministériel numéro 0170 CAB Mine Affaires foncières 2022 du 15 septembre 2022, exproprié une partie de ce site. Et consécutivement à cet arrêté ministériel, certaines personnes ont prétendu détenir le droit de jouissance et ou de propriété, le cas échéant, sur le site ainsi exproprié. En conséquence de ces réclamations, et voulant notamment se conformer aux prescrits légaux, Son Excellence Monsieur le ministre des Affaires foncières a, par arrêté ministériel, institué une commission mixte devant identifier ses occupants et vérifier les documents en soutien de leurs prétentions et faire des évaluations en vue de leur potentielle ou éventuelle indemnisation. Mais il s'est dégagé notamment certains constats lorsque cette commission mixte d'identification a été établie. Le premier constat, c'est que il y a à peu près plus ou moins 700 personnes qui se sont plaintes sur cette question, notamment d'expropriation qui avait été faite. Ça, c'est le premier constat. Et sur, notamment, ces plus ou moins 700 personnes, nous avons pu constater que la majeure partie de ceux qui prétendaient occuper le site n'avaient pas les soubassements légaux nécessaires. Ça veut dire les titres qui pouvaient sous-tendre leur droit de jouissance ou leur propriété sur le fond. On a pu relever sur plus ou moins 700 personnes qu'au moins 6 à 7 personnes qui avaient des contrats de location. Vous vous rendez compte? 6 à 7 personnes qui avaient des contrats de location sur plus ou moins 700 personnes qui, eux, n'avaient en main que les actes de vente, actes de cession venant de chefs coutumiers ou tantôt de Mama Asha ou encore d'autres personnes inconnues ainsi de suite, ou encore des si c'est pas des actes de vente, des actes de cession, c'est carrément des documents établis par le bureau du quartier, donc qui n'ont pas foi au niveau de l'administration foncière. Ça, c'est le premier constat qui a été fait. Et le deuxième constat, c'est que relativement à Mama Asha, nous avons constaté, parce que c'est elle qui s'est plainte, lorsque vous voyez le commentaire qui a été fait par Lazado, on parle beaucoup plus de Mama Asha. Relativement à Mama Asha, nous sommes rendus compte, au travers de cette commission mixte, que les arrêtés qui lui avaient été attribués d'antan, de désaffectation, et les arrêtés au niveau du ministère des Affaires foncières, de création de parcelles qui lui avaient été attribuées, avaient déjà été retirés de la circulation. Autant au niveau de l'urbanisme et habitat pour l'arrêté de désaffectation, autant au niveau du ministère des Affaires foncières.
Mais est-ce qu'elle a été informée que ces arrêtés ont été retirés de circulation?
Les preuves existent. Et il y a même la publication, les preuves de la publication au journal officiel. Vous savez, lorsque un acte réglementaire est pris et qu'il est publié au niveau du journal officiel, ici, cet acte est considéré comme étant opposable à tous. À tous, ça veut dire à toute personne qui peut contester l'acte, la décision gouvernementale prise ou l'acte réglementaire posé. Donc les preuves existent, les preuves de publication au journal officiel existent, qui attestent notamment qu'elle ne peut pas nier avoir su que la désaffectation avait été retractée et que la création parcelle faite au niveau du ministère des Affaires foncières avait aussi été retractée. Donc elle ne pouvait pas procéder à une vente quelconque d'une portion de terre qui entrait d'office dans le domaine public de l'État, étant non désaffectée.
Et est-ce que là on peut avoir ça? C'était avant que le gouvernement ait signé ses partenaires avec ses sociétés pour ériger cet espace en zone économique spéciale, qui est la désaffectation, le retrait des actes. Et date de quelle année, par exemple, avant que le gouvernement ait pris la décision d'exproprier le site pour cause de zone économique spéciale?
Une très bonne question. Je vous ai dit tantôt ici en introduction que l'accord du gouvernement avec Harris date du 16 septembre 2022. Lorsque vous prenez l'arrêté de désaffectation, je peux rapidement vérifier ici, l'arrêté de désaffectation date du 12 novembre 2020. Du 12 novembre 2020.
Qui a été retiré, signifié à Madame Achawala.
Publié au journal officiel. Et l'arrêté de retrait de la désaffectation est de mai 2021. Autant de l'arrêté de création parcelle du ministère des Affaires foncières, l'arrêté de création parcelle est du 4 décembre 2020, portant création parcelle. Et l'arrêté de retrait, ici, et du 27 janvier 2021. Vous voyez que c'est bien avant qu'il y ait l'accord avec Harris, que le gouvernement fasse l'accord avec Harris, que les retraits de ces décisions avaient déjà été faits. Donc c'est pas dire que nous avons fait ça en raison de la circonstance de l'accord qui a été passé avec Harris. Non, non. Ça a été fait préalablement.
Alors, ça a été fait préalablement. Combien de personnes avaient déjà occuper les sites, parce qu'entre 2020-2021, madame a pu peut-être vendre des parcelles à certaines personnes, qu'est-ce qui s'est fait au niveau entre les deux parties, entre le gouvernement? Est-ce qu'il y a-t-il eu procès? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces temps?
Il n'y a eu aucun procès. Parce que quand vous regardez l'arrêté d'expropriation qui est fait, l'arrêté d'expropriation n'est pas fait à l'égard de madame Asha. c'est à l'égard de la société Congo Investissement, qui avait un certificat d'enregistrement sur les lieux concernés. L'arrêté d'expropriation n'expropie pas Madame Acha. L'expropriation ne connaît pas Madame Acha. Donc, par rapport à Madame Acha, parce que c'est elle qui se plaint, il n'y a pas eu une procédure judiciaire diligentée à notre connaissance jusqu'en ce moment pour qu'on vienne notamment nous brandir une décision qui dirait que voilà,
mais avant l'expropriation. La décision du tribunal de Kinkole, par exemple, quand la société congolaise avait saisi le tribunal qui estimait que la démarche était recevable mais non fondée, est-ce que le ministère a tenu compte de ça?
Ce qui est assez bizarre, c'est que je vous ai dit tantôt que lorsque l'expropriation était faite, nous avons créé une commission mixte qui était chargée d'identifier toutes les personnes qui pouvaient se plaindre. Nous avons reçu toutes les parties. Toutes les parties. Il n'a jamais été déposé une quelconque décision de justice d'un tribunal de Kinkole X, Y, Z. Dans toutes ces discussions. Alors, ici, la surprise, c'est de voir qu'au moment où nous sommes en train d'évoluer dans cette procédure d'expropriation, qu'on vient nous brandir une décision de justice. Vous savez, en matière foncière et immobilière, ça ne nous étonne pas parce que les décisions de justice sont créées par-ci, par-là. Une décision qu'on nous brandit doit être authentifiée pour qu'on sache qu'effectivement cette décision de justice est valide, fondée et vient exactement d'un tribunal ou d'une juridiction quelconque. Il suffit pas de brandir une décision. Combien de décisions n'avons-nous pas vues qui étaient des faux, élaborées par des partis dans le cadre d'un intérêt précis qu'ils voulaient sous-tendre ou défendre?
Dans ces discussions, si la décision de justice vous a été brandie, est-ce qu'au niveau du ministère ou soit même avec la commission, y a-t-il eu un travail de vérification pour qu'on se rende compte effectivement que cette décision est peut-être authentique ou elle n'est pas authentique?
On vérifie ce qui est brandi. Je vous ai dit, au niveau de la commission
qui a été... La décision de justice n'a pas été présentée.
N'a jamais été présentée. Et c'est pas non plus tard. J'aimerais bien voir qu'on nous amène cette décision et qu'on fasse toutes les formalités d'usage de vérification pour voir si la décision existe. Ça, c'est d'abord au niveau de la forme, mais même au niveau du fond. Il faudrait vérifier si cette décision n'a pas connu un recours en justice. Il faudrait vérifier si cette décision a été une décision contradictoire ou par défaut. Vous savez que lorsqu'une décision est par défaut, l'exercice de voie de recours demeure. Donc ça veut dire que c'est pas une décision définitive. Et lorsqu'une décision n'est pas définitive, elle ne peut pas être invoquée et appliquée. Donc vous voyez, il y a plusieurs formalités d'usage à vérifier pour voir s'il s'agit d'une décision authentique, s'il s'agit d'une décision valide et si cette décision peut être opposée au regard d'un acte réglementaire établi par l'autorité gouvernementale.
Alors maintenant vous avez dit à Madame Acha, il y a d'autres victimes. Est-ce que toutes les victimes ont acquis ces parcelles à travers elles ou il y en a
C'est une précision importante. Dans plus ou moins 700 personnes, toutes ces personnes n'ont pas acquis de Madame Acha. Il y a une partie qui a acquis des chefs coutumiers, une partie qui a acquis de Madame Acha et une autre partie a acquis d'autres particuliers qui ont vendu à d'autres particuliers. Donc ce n'est pas uniquement Madame Acha. Donc vous voyez ici, c'est quand même aussi assez bizarre de constater qu'il n'y a que elle qui se plaint et que les autres parties qui ont soi-disant vendu et qui ont compris que c'était des ventes irrégulières et qui n'avaient pas le droit de le faire ne se plaignent pas. Donc il y a jusque-là que les plaintes qui nous viennent de Madame Acha et il faudrait vérifier si ces plaintes sont fondées.
Voilà. Alors on va écouter les auditeurs autour de cette question parce que c'est ces genres de débats. La plupart des personnes reviennent sur les différents conflits fonciers parce qu'on sait aujourd'hui, même au niveau des cours et tribunaux, quand nous avons eu l'émission le mardi passé avec l'Azado bien sûr, la plupart des compatriotes qui sont exprimés l'ont dit d'ailleurs que la plupart des conflits dans nos cours et tribunaux, ce sont les conflits liés à la question foncière. On va d'abord les écouter et évoluer pour arriver à la conclusion autour de cette question. Nous avons Aloïs qui nous a appelé de Luisa dans la province du Kasaï central. Merci Aloïs d'être avec nous dans cette émission. Bonjour et on vous écoute.
Bonjour messieurs les journalistes, merci pour la parole nous accordée. Je pense que nous devons être sérieux afin de dire vrai certaines choses telles qu'elles se présentent. Il y a lieu de noter que dans cette mise au point du ministre des Affaires foncières, quelques points méritent une contre-mise au point de par nos analyses. Et c'est notamment la généralisation selon laquelle tous les occupants n'avaient pas acquis ces parcelles d'une manière légale. Et là, il y a lieu de se poser la question, celle de savoir quelle est cette catégorie d'occupants parmi lesquels tous ont bafoué les règles en la matière. Et pour davantage démontrer que cette position du gouvernement se veut une raison du plus fort, vous n'avez qu'à constater une contradiction qui ressort dans la même mise au point par l'annonce d'une indemnité forfaitaire à accorder aux mêmes occupants. Pour trouver solution à cette situation, notre gouvernement, par le biais du ministère des Affaires foncières, doit se réveiller et appliquer le principe de gouverner, c'est prévoir. Car les conflits du genre sont légion dans notre pays et c'est le même gouvernement qui voit ses habitants sans abri, ses employés sans logement et se frotte les mains. Et quand les Congolais, par des moyens dérisoires, se débrouillent pour s'abriter, ça devient une raison d'un réveil pour l'État qui évoque l'expropriation comme quoi il jouait aux pyromanes et aux sapeurs-pompiers. Qui sont bénéficiaires de l'utilité publique qu'envisage cette mesure d'expropriation? Et ces gens ne sont-ils pas des Congolais à qui il faut appliquer la procédure normale ou la procédure légale en la matière en vue de les positionner en quelque sorte? Merci beaucoup.
Merci beaucoup Aloïs. Directement, Maître David Niemboué, directeur de cabinet du ministre des Affaires foncières. Dans ce que notre ami Deluise a dit, je dégage une chose. Il dit, bon, il y en a qui ont occupé illégalement. Est-ce qu'on peut les distinguer même dans l'indemnisation avec ceux qui n'ont pas occupé, disons ceux qui ont des titres? Alors il demande aussi, mais pourquoi les indemniser d'une manière forfaitaire alors qu'ils ont occupé les terrains illégalement? C'est assez quand même intéressant de pouvoir donner un peu des lumières là-dessus.
Oui, c'est très intéressant de donner des lumières là-dessus. Occupation irrégulière ou non? Vous savez, nous parlons de Mme Acha, parce que c'est elle qui se plaint. Lorsqu'elle a obtenu l'arrêté de création parcelle au niveau du ministère des Affaires foncières, allons dans la logique où cet arrêté n'a pas été retiré. Supposons que l'arrêté est toujours en cours jusqu'à la date d'aujourd'hui. Quelle aurait été la procédure qu'elle devrait suivre pour que les ventes qu'elle ferait soient des ventes régulières? Lorsque vous obtenez un arrêté de création partielle, l'arrêté est signé par le ministre dans le cadre d'une destination particulière. Généralement, la première destination est une destination agricole. Lorsque l'arrêté est signé, on vous signe cet arrêté pour une destination agricole. Lorsque vous avez en vue, vous avez par exemple 2 hectares, 3 hectares, 5 hectares, vous avez en vue un jour de commencer à partitionner le fonds que vous avez et à commencer à vendre à des particuliers, qu'est-ce que vous devez faire? Vous revenez au niveau du ministère des Affaires foncières pour réobtenir un arrêté de création parcelle qui change la destination, la première destination pour laquelle la signature vous avait été accordée. Et dans cette destination, il sera noté que vous allez dans le sens notamment de partitionner et de procéder à la vente des fonds qui vous ont été donnés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous allez au niveau de l'administration foncière. Au niveau de l'administration foncière, vous allez solliciter une autorisation de morcellement. Vous sollicitez le morcellement. Le morcellement, ça veut dire quoi? Vous avez par exemple 5 hectares. Sur ces 5 hectares, vous dites, non, moi j'estime que je ne veux pas garder les 5 hectares. Les 5 hectares, je voudrais qu'on puisse diviser ces 5 hectares, par exemple, en des parcelles de 20 sur 20, de 10 sur 20. Vous voyez, qu'on divise pour que ça me permette de vendre. L'administration foncière va vous donner une autorisation de morcellement. Et dès que vous avez cette autorisation de morcellement, le numéro cadastral d'origine, par exemple, si vous avez 5 hectares, vous avez un numéro 10-15. Automatiquement, le numéro cadastral d'origine disparaît pour donner naissance à plusieurs numéros cadastraux selon la division qui a été faite. C'est-à-dire que lorsque vous vendez, vous vendez la propriété avec un numéro cadastral précis qui permettra à l'administration foncière de vous établir un contrat de location. Alors, dites-moi, à quel moment Madame Acha a fait...
Et c'est la question que moi j'allais poser.
Toute est-ce cette procédure.
Voilà. Est-ce que la terre, si on peut utiliser les termes, voilà, quand elle avait sollicité pour avoir ces différents arrêtés, c'était oui, pour quelle destination au début?
La destination pour laquelle l'arrêté de création partielle a été signé est une destination mixte. Donc elle devait revenir pour le changement de destination et elle devait encore revenir devant l'autorité administrative foncière pour solliciter un morcellement et procéder à toutes ces ventes. Mais ce processus a été interrompu. Pourquoi? Parce que nous avons constaté qu'au niveau de l'urbanisme et habitat, la désaffectation qui avait été faite. Parce que lorsqu'on désaffecte un fonds, le fonds quitte le domaine public de l'État pour passer dans le domaine privé de l'État. Et c'est dans ce domaine privé qu'il peut être effectué des ventes. Mais lorsque le même urbanisme habitat prend un arrêté de retrait, qui vient retracter la désaffectation qui avait été faite, ça veut dire que le bien ne demeure pas dans le domaine privé. Ça veut dire que ce bien rentre dans le domaine public de l'État. Une des caractéristiques essentielles du domaine public de l'État, c'est que les biens qui s'y trouvent sont incessibles.
Voilà. Et le deuxième volet par rapport à l'indemnisation forfaitaire, voilà, il dit pourquoi faudra-t-il indemniser?
L'indemnisation, au fait, je vous ai dit qu'il y a une commission qui avait été instituée. Cette commission est arrivée à des conclusions, a fait des propositions. Parmi les propositions qui ont été faites, la première, c'était notamment la prise en compte de l'aspect humanitaire au regard des attentes des occupants. C'est dans un cadre humanitaire. On s'est dit, bon, écoutez, il s'agit quand même de plus ou moins 700 personnes. C'est vrai que c'est une occupation irrégulière. Il faudrait essayer de voir si le gouvernement peut faire quelque chose. C'est quand même pas un gouvernement sadique. Il faut voir si le gouvernement peut faire quelque chose pour essayer d'améliorer la situation de ses occupants. C'est dans ce cadre-là qu'il a été institué une deuxième commission qui est en train de statuer sur les questions, non pas d'indemnisation, parce que lorsque vous parlez d'indemnisation, ça suppose que vous rentrez dans une procédure normale d'expropriation. Or, qui est exproprié? On exproprie un propriétaire. On exproprie une personne qui a un droit de jouissance. Mais lorsque vous n'avez rien, vous n'entrez pas dans la logique classique d'une procédure d'indemnisation à la suite d'une expropriation. Nous avons dit non, trouvons une compensation. Au lieu d'une indemnisation, nous allons actionner une procédure de compensation forfaitaire dans un but humanitaire, une compensation forfaitaire pour essayer de la meilleure manière possible d'alléger la situation de ces occupants.
Qui ne tient pas compte des valeurs, des ouvrages érigés dans les parcelles.
Vous savez, au fait, nous n'allons pas dans une logique d'indemnisation classique. Parce que si nous devons évoluer dans cette procédure-là, il faudrait que celui qui veut être indemnisé, celui qui veut invoquer tous les préceptes ou les prescrits de la loi de février 77 sur l'expropriation, justifie d'abord d'un titre régulier. Vous devez justifier d'un titre régulier. Mais si vous n'avez pas de titre régulier, comment vous voulez qu'on vous applique cette procédure d'indemnisation en long et en large? C'est dans ce cadre qu'on se dit non. Ici, nous ne faisons pas une indemnisation, mais nous faisons une
compensation.
Voilà. Et je rajoute, compensation forfaitaire.
Alors, on va rentrer de l'autre côté. Il y a deux auditeurs encore. Emina Mwanda qui est à Bukavu et Marie-Paul à Kisangani. Emina, merci d'être avec nous. Bonjour, on vous écoute.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à Mimi Kindou qui concourt à la réalisation et production de ce magazine des paroles aux auditeurs. Bonjour à tous les fidèles auditeurs et auditrices de la fréquence de la paix. Expropriation pour cause d'utilité publique des sites de l'Ancelé qui continue toujours à effrayer et à soulever débat et dont par après le ministre ayant dans ses attributions les affaires foncières pense à indemniser 700 occupants de ces sites où serait érigée le cadre de la zone économique spéciale, c'est déjà faire le contraire de ce que le monde est en train d'attendre dans cette affaire. Parce que de mon humble avis, ce sont ces gens-là qui devraient indemniser l'État congolais. Parce que l'État congolais s'est trouvé dans une perte en voyant les locataires vraiment disposer ce titre sans aucune régularité de leur occupation. Nous pouvons aborder cette question avec attention dans plusieurs facettes, dont premièrement le théâtre politique et ensuite de bêtes noires cachées qui n'envisagent que le pillage de la nation. Pour chuter, j'aimerais poser deux questions. 1. Pourquoi l'État a choisi seulement ce site pour la construction des cadres des zones économiques et spéciales? 2. En choisissant ce site, est-ce que cet État ne voyait pas les gens qui, degré de force, devraient chercher où vivre? Et enfin, Monsieur Pierrot, que pensait l'État pour la suite et la survie des gens qui occupaient ces concessions après que le gouvernement ait décidé de récupérer les sites?
Merci beaucoup, Emine. À vous poser trois questions. Premièrement, pourquoi avoir choisi seulement ces sites? Est-ce que l'État, choisissant ces sites, ne savait pas qu'il y avait déjà les gens qui occupaient pour travailler déjà en amont et éviter la situation des conflits? Et après, quelle va être la suite pour toutes ces personnes? Merci beaucoup, Emine. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani. Merci d'être avec nous. Bonjour, on vous écoute.
Bonjour, c'est journaliste et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Il est tout à fait inéluctable que l'État peut recourir au procédé des contraintes ou des cessions forcées pour se procurer les espaces par le mode de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ce mode d'acquisition impose à l'État l'obligation de payer l'indemnité juste et préalable à tous ceux qui sont frappés par cette prérogative régalienne exorbitante au droit commun. La loi numéro 77-001 du 22 février 1977, dans son article premier, détermine le bien susceptible de faire l'objet d'expropriation pour cause d'utilité publique. Les plausibles conflits fonciers sur les sites de Kin-Malebo à la commune d'Enselé est tout à fait flou selon les droits administratifs, les droits domaniales et les droits fonciers. Et au regard des arguments soulevé par ces deux parties en litige, la grande préoccupation est de savoir comment ces 700 occupants ont-ils occupé cette zone stratégique sans autorisation expresse de l'État ou de ses organes. Si cette occupation est tout à fait illégale, je crois que à cette condition, on ne peut pas parler de l'expropriation pour cause d'utilité publique. C'est-à-dire que l'État doit récupérer ses terrains sans indemniser ceux-là qui occupaient illégalement ces espaces. Mais si les gens-là détiennent des papiers, je crois que l'État est dans l'obligation de pouvoir les indemniser. Donc, la solution durable serait d'établir chacun devant ses responsabilités et pour ne pas cochonner des incongruités. Voilà ce qu'il faut dire.
Merci beaucoup, Marie-Paul. Nous revenons à vous, Maître David Niembwe. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur des cabinets du ministre des Affaires foncières. Voilà. Ça dit qu'on revient sur la clarification. Pourquoi avoir choisi ces sites? Mais tout en sachant déjà que les sites étaient occupés, est-ce que l'État ne pouvait pas travailler en amont pour arriver peut-être à éviter qu'il y ait conflit ou tiraillement? Et quelle va être la suite? Notre ami lui revient sur le fait, mais bon, mais si les gens occupent illégalement, vous n'avez pas besoin de pouvoir les indemniser. Et moi, je vais ajouter la question autour de des acteurs concernés. Vous avez parlé du contrat signé en 2022 entre le gouvernement et l'autre société, mais il y a aussi Congo Investissement, je crois, international, qui était déjà qui est parti en conflit avec les occupants. Mais tout ça, quelle est en principe la société qui pourra occuper les sites pour l'exploitation? Voilà un peu l'ensemble des préoccupations pour cette troisième partie.
Ok, merci beaucoup. Pourquoi l'État a choisi ce site? Bon, vous savez, lorsqu'on veut créer une zone économique spéciale, il y a des critères techniques. Je ne vais pas entrer dans ces critères techniques. Il y a des techniciens qui travaillent là-dessus, qui essaient de voir si les conditions qu'ils énoncent sont réunies pour retenir un site A ou un site B. Donc, quand ils ont retenu ce site, ça veut dire qu'ils ont estimé que toutes les conditions techniques avaient été réunies pour que ça soit l'un des meilleurs sites pour la création de la zone économique spéciale. Et il faut dire que la création d'une zone économique spéciale va apporter beaucoup d'emplois dans la ville. Et ça va permettre le développement dans la ville de Kinshasa. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est qu'une zone économique spéciale. C'est un endroit où on concentre un ensemble de sociétés industrielles, où une exploitation industrielle est faite de façon intensive. Et dans cette exploitation, ici, l'un des aspects importants, c'est la solution au chômage qui est apportée parce que beaucoup de gens sont recrutés, beaucoup de gens sont pris dans le cadre de cette zone économique spéciale et on résout ce problème de chômage. Vous savez, dans toutes les questions qui sont posées ici, tournent autour de qui est exproprié. Vous voyez ? Le ministre des Affaires foncières a exproprié la société Congo International Investment.
Ok.
Ok. C'est cette société-là qui peut, notamment, invoquer tous les dispositifs contenus dans la loi de 77 sur les expropriations pour cause d'utilité
publique. Ça veut dire que le ministère n'a pas eu contact direct avec des individus qui
occupent... Non. Nous avons exproprié la société. Et cette société est détentrice d'un certificat d'enregistrement de plus de 2 ans. Vous comprenez? Ce n'est pas les individus. Nous n'avons pas exproprié Madame Acha. Nous n'avons pas exproprié des individus. Non. De deux, je dis ici que c'est... Pourquoi une compensation forfaitaire? C'est dans un cadre humanitaire. Parce que quelqu'un a posé une question, c'est de dire, est-ce que vous ne tenez pas compte de ces 700 personnes qui occupent, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais c'est ça l'aspect humanitaire. C'est de dire, au lieu de faire un rigorisme excessif juridique, de dire, bon, écoutez, vous autres, vous avez occupé de manière irrégulière, on vous met de côté purement et simplement. Non, nous disons, il faut quand même tenir compte de ces personnes-là. Et c'est dans ce cadre-là qu'une commission a été créée pour voir comment le plus à même possible essayer de voir l'intérêt de toutes ces personnes et comment essayer de compenser de manière forfaitaire leurs intérêts.
Alors, voilà. Ça dit que si on va en amont, le conflit que j'ai évoqué tout à l'heure, qui a fait objet d'un procès au niveau du tribunal de Kinkole, opposait Madame Acha et la société Congo Investissement International, qui estimait qu'elle avait occupé une partie de sa concession.
Voilà.
Maintenant, le gouvernement va exproprier la société, qui elle-même accuse les autres personnes d'avoir aussi occupé, je ne sais pas, à son terrain. Mais est-ce qu'au niveau du gouvernement, l'ensemble du terrain prend l'ensemble et de la société Congo Investissement et de tous les autres particuliers? Ça devient un peu plus grand.
Non, nous avons pris une partie. Nous avons bien dit une partie du site Kin Malebo. C'est pas tout le site, une partie. Et de deux, lorsque un arrêté d'expropriation est pris, la partie qui s'estime être lésée a de recours devant la justice.
Ça n'a jamais été fait.
Devant le, je suis en train d'en venir. C'est devant notamment les juridictions qui sont appropriées pour statuer sur ces questions. Ok? La société Congo International Investment est allée devant le Conseil d'État
pour attaquer l'arrêté
d'expropriation
du ministère des Affaires foncières.
Voilà. Ils ont fait d'abord un recours en référé liberté. C'est quoi un recours en référé liberté? C'est lorsque vous voulez qu'on puisse suspendre les effets d'un arrêté pris par une autorité administrative. Ça veut dire, au lieu qu'on continue dans le processus d'expropriation, on stoppe ce processus. Ils sont allés devant le juge et ils ont obtenu une ordonnance de suspension de l'arrêté d'expropriation. Qu'est-ce que la République a fait? La République, à son tour, a usé des voies de recours que la loi lui donne pour attaquer la décision du Conseil d'État qui a donné la suspension de l'exécution de l'arrêté
d'expropriation.
Et nous avons obtenu une ordonnance qui a effacé la première qui a donné la suspension. La deuxième ordonnance du Conseil d'État a donc autorisé au gouvernement, à la République démocratique du Congo, de continuer le processus d'expropriation.
Et les autres personnes, voilà. Madame H, parce qu'on l'a évoqué,
justement,
est-ce qu'elles n'ont pas saisi la justice pour attaquer la décision du gouvernement?
Jusqu'à ce niveau-ci, nous n'avons pas l'information qui soit allée au Conseil d'État. Parce que lorsque vous saisissez le Conseil d'État, vous ne le saisissez pas de façon occulte. Non, c'est public. Il y a des actes de notification qui sont lancés aux différentes parties pour que ces parties réagissent quant au recours introduit. Jusque-là, les recours que nous avons vus, c'est le recours de Congo International Investissement. Et c'est normal parce que l'arrêté d'expropriation exproprie cette société-là.
Pas des individus et
pas
d'autres
des
personnes.
Individus.
Voilà. Alors on va écouter une personne sur les sites, hein, une victime qui va expliquer peut-être comment ça a commencé et qui vous pose aussi d'ailleurs la question directe pour savoir la solution finale. On retourne au studio, on va écouter une victime de Kin Malebo qui va s'exprimer et vous poser d'ailleurs la question directement. Et pendant ce temps, Jérémy, vous gardez la ligne, vous nous appelez de Lubumbashi. On va au studio.
Bonjour Monsieur Pierrot. Je suis une des victimes de la cité EOA. Pour une petite historique, j'aimerais rappeler que nous avons acheté nos terrains en bonne et due forme. Pourquoi je me permets de dire en bonne et due forme? Parce qu'il y a des arrêtés qui ont même été publiés dans le journal officiel de différents ministres, à savoir le ministre de l'Urbanisme et Habitat et les ministres des Affaires foncières. Tous ces arrêtés-là, comme tout Congolais avant d'acheter, nous devons procéder à la vérification du site ou du terrain que nous achetons ou même de la parcelle que nous achetons. Nos avocats respectifs ont fait cette gymnastique-là et nous ont rassurés que nous étions sur un terrain bien avec tout le document requis par l'État congolais. C'est ainsi que nous avons acheté nos terrains. Mais nous nous sommes vus envahis par les éléments de la garde républicaine, lesquels éléments, nous savons tous qu'ils sont l'image de la présence de la main du président de la République dans une affaire. Ils sont venus sans documents, piétinant nos droits parce que nous sommes faibles. Ils nous ont demandé de laisser nos différents terrains parce qu'ils avaient une mission et après, on allait regagner. Depuis le mois de novembre 2022 jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons vu nos terrains, nos constructions et saccagés, nos matériaux de construction stockés, volés. Qui, au Congo ici, quel Congolais a le courage d'aller mettre le pied là où il y a la présence de la garde républicaine? Les éléments de l'ordre sont fauteurs de troubles ici au Congo parce qu'ils ont volé nos matériaux, ils ont cassé nos constructions, ils ont fait la destruction méchante, sur nos investissements. En parcourant la loi, nous ne voyons aucune disposition ici au Congo qui prévoit l'indemnisation forfaitaire dont veut nous imposer le ministère des Affaires foncières. Le ministère des Affaires foncières, il est mieux placé pour savoir que lorsque on veut procéder à l'indemnisation, on doit faire recours au mercurial. Et le ministère des Affaires foncières est mieux placé que quiconque pour savoir que on ne peut pas faire l'indemnisation après avoir chassé les gens comme de vulgaires voyous et après avoir détruit leurs efforts. Mais on est où là? Dans un pays d'état qui se dit d'état de droit. On se croirait pas. En tout cas, nous, victimes, nous avons besoin d'être remis dans nos droits. Nous avons besoin d'être remis dans nos droits, que le gouvernement s'implique, que le président de la République lui-même, dont l'image est en train d'être salie, s'implique pour nous remettre dans nos droits, parce que les élections sont en train de venir, et nous allons sanctionner avec notre carton rouge. Pour ne pas monopoliser, je pense que je m'arrête par là, mais je demande au porte-parole du ministère des Affaires foncières que vous avez reçu en ce jour sur votre plateau, d'amener cette information à qui de droit. Nous réclamons justice pour notre terrain, nos terrains, nos différents terrains. Nous réclamons d'être remis dans notre droit. Voilà un peu ce qui est de notre intervention, de mon intervention pour ce matin. Merci.
Merci beaucoup, madame. Voilà, je voudrais que monsieur maître David Niemoué, vous puissiez quand même vous appesantir, parce que là, on a quand même quelqu'un de Kinshasa, une victime sur terrain, qui parle des cités Ewa. C'est la première fois que j'entends parler. Peut-être, je sais pas, il y a tellement beaucoup d'intervenants dans cette affaire, parce que là, on ne sait pas aussi dans une émission de savoir qui est la personne qui détient tel titre. Oui. Ça, c'est compliqué. Peut-être que c'est vous qui rencontrez les victimes, que vous pouvez différencier les personnes. Voilà, vous avez suivi notre compatriote, comment elle a c'est quand même de décrire et des fois des dénonciations qu'elle a pu faire et la question qu'elle pose de savoir comment nous remettre dans nos droits. Voilà un peu, essayer un peu de donner des réponses autour de cette question.
Voilà, elle a d'abord parlé des arrêtés, donc je suppose qu'elle aurait acquis sa portion de terre chez Maman Acha, parce qu'elle parle d'arrêtés. Et je vous ai dit tantôt qu'il s'agissait de quel arrêté? L'arrêté de désaffectation, urbanisme, habitat, et de l'autre côté, l'arrêté de création parcelle au niveau du ministère des Affaires foncières. Et je vous ai dit que ces arrêtés ont été rétractés dans un bref délai. Et même dans la logique où ces arrêtés n'avaient pas été rétractés, je vous ai décrit la procédure à suivre pour qu'une vente faite par Maman Acha soit régulière. Lorsque vous essayez de parcourir toutes ces procédures que je viens de vous décrire, qui sont dans la loi. Je ne voudrais pas entrer dans les détails pour commencer à donner notamment le dispositif de la loi. Vous allez voir que rien n'a été respecté. Les occupations qui ont été faites sont des occupations purement et simplement irrégulières. Si vous posez la question à la dame qui vient d'intervenir tantôt, parce qu'elle dit, nous avons des documents, posez-lui la question, ça va. Vous pouvez nous donner le nom de ce document? Juste le nom de ce document, pour qu'on sache si le document que vous avez est un document qui peut établir légalement un titre de jouissance ou un titre de droit à l'égard d'un fonds précis. Quel est le nom de ce document? À la rigueur, est-ce qu'elle a même un contrat de location? Vous voyez, je vous ai dit tantôt, une commission a été établie. Et cette commission a travaillé avec beaucoup de professionnalisme. Et nous avons constaté que la majeure partie des gens qui se sont présentés n'avaient pas des titres légaux. À la rigueur, si vous voulez justifier d'un droit de jouissance, parce que vous savez que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Si vous voulez justifier d'un droit de jouissance sur un fonds qu'on vous aurait vendu d'une manière ou d'une autre, amenez-nous un contrat de location. Si vous avez fait une mise en valeur consistante, amenez-nous un certificat d'enregistrement. Mais si vous n'amenez ni l'un, ni l'autre, à la place vous nous présentez un acte de vente, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça? vous nous présentez un acte de vente ou vous nous présentez un document émis par un bureau de quartier. Une fiche parcellaire. Est-ce que ces documents sont à même d'établir légalement un droit sur un fonds qu'on vous aurait vendu de manière régulière? C'est ça le problème. Que les gens ne veulent pas comprendre. Et puis quand on parle de la mercuriale, oui la mercuriale, mais c'est lorsqu'on est dans une procédure classique d'expropriation. Une expropriation faite en bonne et due forme, comme faite à l'égard de Congo International Investment, lorsque les pourparlers s'engagent pour déterminer la valeur de l'indemnisation qui devra être donnée à cette société, les bases qui seront prises en compte seront celles de la mercuriale, tout à fait. Mais il faut encore être dans la conformité de la loi, au niveau de l'occupation, au niveau du titre obtenu, et savoir si l'expropriation vous concerne pour qu'on vous applique toutes ces mesures. Vous voyez, c'est un peu ça en résumé, la réponse que je peux donner. C'est pourquoi j'ai parlé de l'aspect humanitaire. Pour autant, même si nous estimons que tous ces prescrits légaux n'ont pas été respectés, pour autant, nous avons donc vu cet aspect humanitaire. Nous avons dit, pour ne pas simplement balayer les gens d'un revers de la main, nous allons voir dans la commission qui est mise en place actuellement et qui est en train de recevoir, les partis arrivent au ministère des Affaires foncières chaque jour. Ils y vont. Les partis que nous recevons viennent et nous examinons les dossiers cas par cas pour voir à la rigueur qu'est-ce que nous pouvons faire pour motif humanitaire dans le cadre d'une compensation forfaitaire.
Avant d'écouter les derniers auditeurs, c'est Jérémy qui est à Lubumbashi. Madame qui vient de parler tout à l'heure pose la question de la destruction. Est-ce qu'on a déjà procédé? On n'est passé à l'étape de la démolition.
On n'a pas encore démoli. On n'a pas encore démoli.
De la garde républicaine, des gens qui auraient détruit les
histoires. Je crois qu'il faut donner une information qui est correcte et évitons.
Il n'y a pas eu destruction, de construction.
Non. Évitons de mêler abusivement le chef de l'État dans certaines choses. La démolition est faite sur un arrêté du gouverneur de la ville. L'arrêté existe. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à la phase de démolition.
On n'est pas encore arrivé là.
Voilà. Nous ne sommes pas encore arrivés à la phase de démolition. Nous sommes en ce moment précis en train de recevoir des différentes parties au niveau du ministère des Affaires foncières pour analyser au cas par cas qu'est-ce qui devra être fait au niveau de la compensation forfaitaire.
Voilà. Alors, on va écouter Jérémy rapidement qui est à Lubumbashi. On va revenir pour une conclusion générale de cet échange. Jérémy, merci de nous avoir rejoint. Vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, on vous écoute, Jérémy.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour également à l'invité. Je pense que la situation autour des occupants qui occupent, selon les gouvernements, via le ministère des Affaires foncières illégalement, l'espace dont il est question, bon, je pense que lorsque deux pôles ou deux pôles extrêmes s'empoignardent, alors il revient à la justice de pouvoir intervenir pour clore définitivement ce problème. Parce que si la justice n'intervient pas, c'est que on aura assisté à ce qu'on appelle un bras de fer. Bon, on sait que bien au finish, c'est le gouvernement qui doit toujours emporter un temps les décideurs sur le petit peuple. Bon, je veux dire, à ce stade, il faut réellement que on arrive à trancher le problème de manière efficiente pour éviter qu'il y ait de frustration. Bon, nous saluons certes ce geste de pouvoir indemniser les autres qui, selon le gouvernement, ne semblent pas acquérir les propriétés de manière légale. Alors,
merci beaucoup, Jérémy. Vous avez dit qu'il faut qu'on trouve une solution concertée. D'un moment, vous avez aussi évoqué le cas de la justice. Alors, on revient à vous, Maître David Nyembwe Tchilenye, directeur de cabinet du ministre des Affaires foncières, parce qu'on doit chuter dans cette émission. Il y a une question, on l'a dit, jusqu'alors, les personnes qui réclament justice n'ont pas saisi la justice autour de cette question pour toutes ces personnes individuelles. Mais est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de la valeur de cette indemnisation forfaitaire? Elle représente quoi exactement? Y a-t-il déjà une proposition qui a été faite à toutes ces personnes, en termes chiffrés par exemple?
Je ne saurais donner des précisions sur les termes chiffrés. Parce que la commission est en train de travailler, il faut respecter le travail de la commission. Laissons-la évoluer avec les différentes parties qu'elle reçoit chaque jour. Et je crois que c'est une de leurs attributions, notamment d'arriver à déterminer qu'est-ce qui devrait être alloué à titre de compensation forfaitaire. Donc, je ne saurais donner une réponse précise sur cette question. Mais pour les causes des tribunaux, tantôt là, vous savez, les causes des tribunaux sont ouvertes à toutes les parties. Tout le monde a droit d'aller devant les causes des tribunaux. Donc, ceux qui estiment qu'ils sont lésés n'ont pas à parler d'un bras de fer. Parce que le gouvernement ne leur a pas empêché d'exercer différents recours, comme l'a fait la société Congo Investment. Je vous ai donné une panoplie des procédures diligentées par la société Congo International Investment. Donc, la liberté d'actionner devant les cours des tribunaux est donnée à quiconque. Et nous, on ne peut pas empêcher ça.
Voilà. Alors, au niveau de la loi foncière, quand on parle que l'État est responsable des erreurs matérielles, parce que en écoutant, en lisant aussi les commentaires sur la page Facebook, est-ce que dans ces dossiers, y a-t-il eu, à partir des premiers arrêtés, retirés, et tous les autres, peut-être, documents que certaines personnes auraient eu sur ces sites, y a-t-il quelque part des erreurs qu'on peut imputer au ministère des Affaires foncières? Est-ce que le ministère reconnaît quelque part qu'elle peut avoir été responsable dans la procédure de quelque chose?
Écoutez, n'inversez pas la charge de la preuve. C'est celui qui affirme qui doit démontrer. Si vous affirmez que l'autorité gouvernementale a commis des erreurs, vous devez nous démontrer où sont ces erreurs. Où est-ce que ces erreurs ont été commises? Comment voulez-vous que nous puissions maintenir un arrêté de création parcelle à partir du moment où l'acte de désaffectation qui avait justifié la création parcelle n'existe plus? En droit, nous disons du néant, rien ne sort. À partir du moment où il y a un néant, on ne peut pas laisser survivre cet arrêté. Nous devons le rétracter parce que le bien en question ne fait plus partie du domaine privé de l'État, mais rentre dans le domaine public qui est inconcessible. Alors peut-on dire que là, il y a une erreur? Il n'y a pas. Donc c'est à celui qui affirme qu'il y a erreur
de saisir les cours des tribunaux,
voilà, de démontrer
pour attaquer cette décision-là.
N'inversons pas la charge de la preuve.
Alors est-ce qu'en dernier mot, qu'est-ce qu'on peut retenir pour conclure cet échange? Juste un mot.
Voilà, merci. En dernier mot, c'est comme je vous ai dit tantôt, nous n'avançons pas dans un espèce de rigorisme excessif où nous appliquons les règles de droit de manière désordonnée. Non. Nous avons dit, malgré le fait que ces occupations sont irrégulières, nous allons quand même, dans un but humanitaire, social, tenir compte de ces personnes et arriver avec eux à un compromis sur une compensation forfaitaire. Donc moi je pense que nous évoluons dans la bonne voie et j'invite les différentes parties qui s'estiment être lésées à passer au niveau du ministère des Affaires foncières parce que la commission qui est en train de travailler continue encore le travail, à présenter leurs sollicitations et nous verrons de la manière la plus sociale possible comment essayer de rencontrer leurs différents intérêts.
Merci, merci beaucoup Maître David Niembouet-Tilenye, directeur des cabinets du ministre des Affaires foncières. Merci aux fidèles auditeurs de la fréquence de la paix. Mimi Kindo a assuré la mise en œuvre de ce magazine Kepiro et la Meiji. J'ai eu le réel plaisir de vous présenter. Vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiokapi.net. Merci de votre fidélité à la fréquence de la paix. Au revoir.